C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.
Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce 10e numéro de Regard intime. Ce soir, nous sommes en compagnie de Julie Duclos, metteuse en scène du spectacle Mayday et directrice de la compagnie Lynn Quarto. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires en dessous du podcast. Bonne écoute à tous sur Transistor.
Alors bonjour Julie Duclos.
Bonjour.
Alors donc vous avez créé la compagnie Lynn Quarto à la fin des années 2000, après donc la sortie du Conservatoire supérieur national d'art dramatique de Paris. Donc Mayday, c'est le 4e spectacle de la compagnie. Le oui. Précédent que j'ai pu voir également était Nos Serments, qui était d'après La Maman et la Putain de Jean Eustache, créé en 2014, et qui avait été également joué, même peut-être même créé au Célestin, si mes souvenirs sont bons.
Non, à Besançon.
À Besançon.
Mais joué au Célestin, tout à fait.
Et donc Mayday se joue actuellement au Célestin du 21 mars au 25 mars et continue sa tournée pour être à l'honneur entre autres à Théâtre en Mai à Dijon, au Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé par Benoît Lambert. Théâtre en Mai qui nous est cher puisque c'est de là que nous venons et pour ma part c'est à Théâtre en Mai que j'ai pu découvrir mes premières grandes pièces de théâtre, si je puis dire, notamment internationales. Voilà, donc ce festival nous tient particulièrement à cœur aussi. Et donc le texte de Mayday est publié chez Quartet Éditions sous le titre de Big Blue Eyes et republié sous le titre de Mayday. Pour nos auditeurs, j'avais pu en faire un petit compte-rendu dans le billet alchimique du 16 février dernier dans le journal radiophonique Amplifié 19. Alors, après toutes ces informations assommantes, une première question. Alors, les précédents spectacles de la compagnie, masculin-féminin, une adaptation du fragment de Discours amoureux, Nos Serments, étaient des sortes d'adaptations. Et il me semble que c'est la première fois, en tout cas avec cette compagnie, que vous montez un texte de théâtre au sens restrictif du terme, en tant qu'il est écrit par une auteure de théâtre. Mm-hmm. D'où ma question, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet auteur plutôt qu'une autre ?
Ben, je dirais que, effectivement, choisir cette pièce que j'ai découvert, je l'ai lue en sortant du Conservatoire National en 2010. Donc, en fait, j'ai découvert cette pièce, je venais tout juste de monter mon premier spectacle. Donc ça fait un moment que je l'ai avec moi. J'avais pas encore fait masculin-féminin, les serments, tout ce travail effectivement d'adaptation, d'écriture de plateau. C'était à chaque fois des travaux où effectivement je composais ma propre dramaturgie. Et là, je crois que ce qui m'a plu tout de suite quand j'ai découvert la pièce, c'était justement la dramaturgie de cette pièce, de l'auteur, la façon qu'elle a d'écrire, mais pas forcément la langue à proprement parler, même si j'aime beaucoup cette langue, mais plutôt la manière dont le texte est foutu, c'est-à-dire complètement fragmenté, et je trouvais que ça rencontrait, j'ai senti que ça rencontrait immédiatement ma manière de travailler et de fonctionner, mon goût des fragments. Je venais de monter les fragments d'un discours amoureux de Barthes. Donc voilà, c'est vraiment comme des bouts de monologues qui s'entrechoquent les uns aux autres, qui sont collés, qui coexistent, et donc qui créent comme ça des effets de montage. Ça me plaisait beaucoup. Et donc j'aimais aussi ces portraits de femmes comme ça, des portraits de femmes en mouvement sur plusieurs générations. Ça me plaisait aussi. Je sentais que c'était une pièce pour des actrices. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, la rencontre avec la pièce.
Et donc effectivement, dans sa forme, le texte est écrit sous la forme d'une succession de voix qui sont toujours sur le point de disparaître si personne ne les écoute, ou qui ont peut-être même déjà disparu, puisque certaines voix reviennent pour nous parler sous la forme éparse de revenants, fragmentée, la forme fragmentée du souvenir, de la reconstitution. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de la trame de Kate, de l'histoire de Kate, qui est l'histoire dont parle la pièce, l'histoire d'une enfant criminelle, pour
oui,
que nos auditeurs puissent...
Bien sûr, c'est effectivement très simple. Ça commence, tout part du fait qu'une femme va accepter de donner une interview. On suit cette femme chez elle. Effectivement, elle a commis des meurtres dans l'enfance. On ne le sait pas tout de suite. En tout cas, ce qu'on voit, c'est une femme qui vit difficilement avec ses fantômes, qui fait des cauchemars, qui s'en sort pas. Et qui, à un moment donné, comme pour arrêter cette espèce de cauchemar, elle accepte de faire une interview pour revenir sur son histoire, sur sa mémoire, sur son passé. Et donc, cette interview va comme ouvrir, contenir ces fameuses voix, comme si le fait de parler et donc d'évoquer son enfance et aussi sa mère et aussi sa grand-mère, ça faisait littéralement surgir ces femmes-là. Donc c'est une pièce vraiment sur les fantômes et sur la mémoire, puisqu'on a donc comme ça ce fil-voix, on pourrait dire, de l'interview qui donc fait surgir les fantômes, fait surgir ces présences-là de femmes, et ces femmes vont venir et nous parler. Donc effectivement, c'est un fonctionnement pas du tout réaliste en ce sens, puisque c'est comme si des espaces-temps se mettaient à coexister comme ça, dans un même espace. Ça, c'est assez passionnant en ce sens. Donc voilà, ça va être d'où cette multiplicité de voix comme ça.
Et justement, multiplicité de voix, mais aussi multiplicité d'histoires. Et votre scénographie a plutôt tendance, j'ai l'impression, à superposer les histoires plutôt qu'à les unifier dans un même mouvement, à les harmoniser, plutôt que de les harmoniser, justement, comme s'il y avait quelque chose d'horrible comme ça dans ces histoires qui pouvait justement ne pas être harmonisé. Et c'est assez inhabituel au théâtre, justement, dans la manière de mettre en scène. Du coup, qu'est-ce que vous choisissez de raconter en faisant cela? Bien sûr, c'est basé sur la dramaturgie de la pièce, mais enfin, il y a quelque chose aussi de votre patte, j'ai trouvé, dans cette manière de monter le plateau.
Oui, bien sûr, c'est vrai. C'était en ce sens une rencontre. Je pense qu'on pourrait dire une rencontre, c'est ça. C'est quand ça permet de déplier tout d'un coup tout un univers. Et en ce sens, c'était contenu dans la pièce. Mais c'est vrai que je crois que cette réflexion sur la mémoire, et c'est comme si tout d'un coup, je sentais que ça permettait d'amener une poésie, une poétique, et de créer une espèce de voyage dans le temps. Je crois que c'est en ce sens que la pièce me plaisait. Et donc, du coup, on a été beaucoup nourris, hein, vraiment, d'images, mais on pourrait dire d'images intérieures, c'est-à-dire comment tout d'un coup raconter ce voyage dans le temps que fait Mary avec ses fantômes, donc le personnage principal, mais que presque ce voyage soit proposé au spectateur. C'est comme si tout d'un coup, c'était lui qui plongeait dans la mémoire. Et donc, ça veut dire que c'est un travail très, je sais pas comment dire, sensoriel, physiologique, comme de créer comme ça des atmosphères, des choses de l'ordre de l'invisible qu'on n'attrape pas forcément d'emblée, comme des réminiscences, comme si on plongeait dans la mémoire, ce serait un drôle de truc. Tout d'un coup, les images se confondent, on ne sait plus ce qui est de la part du vrai, du faux, du fantasme. Donc voilà, il y avait cette scénographie comme ça de ruines. J'ai senti tout de suite que j'avais envie de travailler là-dessus, mais pas forcément les ruines de façon réaliste, puisque le premier meurtre d'enfant a eu lieu dans une maison abandonnée. Donc c'était comme une base comme ça de décor. Mais c'était vraiment l'idée des ruines de la mémoire, c'est-à-dire un espace comme ça laissé à l'abandon qui permette la circulation des fantômes, la circulation des images, la circulation des voix. Ça me plaisait en ce sens. Donc c'est vrai que c'est un travail sur l'imaginaire. Et là-dessus, ça a été hyper important d'avoir avec moi aussi les collaborateurs en vidéo, au son, à la lumière, qui pour faire converger tout ça ensemble.
Oui, parce qu'une des caractéristiques de ton théâtre, justement, c'est d'alterner entre des incarnations sur scène, on pourrait dire de type classique, parce que le classique existe, et des projections avec donc la caméra ou tout un travail vidéo de ces mêmes acteurs qu'on voit sur scène, mais dans un autre médium, ou même parfois filmé sur scène. Dans nos serments, c'était vraiment la manière de fonctionner. Et donc, on a chaque fois un personnage qui se retrouve devant la caméra. Pourquoi ces deux médiums comme ça?
Je crois que j'aime bien, d'abord j'adore le cinéma, le montage, et je fonctionne beaucoup par image, donc le cinéma est un outil déjà qui en soi me nourrit, et ça m'intéresse de le mettre au théâtre, créer des effets de montage entre une image cinématographique et le plateau. ou créer même des effets de cinématographie aussi dans le jeu d'acteur. C'est-à-dire, je pense qu'on a pu beaucoup me dire, oh ben dis donc, c'est comme si on était au cinéma. Je pense que c'est pas seulement par le fait que j'utilise de la vidéo, mais c'est aussi peut-être une manière de penser le temps de plateau en termes de montage, de séquences, de faire jouer le son et l'image, ou des décalages, des choses comme ça. Et puis effectivement, là, ça m'intéressait de travailler avec de la vidéo en direct, parce qu'autant nos serments, c'est vrai qu'il y avait un écran, il y avait ce dialogue plateau vidéo intérieur, extérieur, mais c'était que des images préenregistrées. Alors que là, comme c'est l'idée d'une plongée en direct dans la mémoire, comme si tout se rejouait au présent. Et donc, il peut y avoir quelques images préenregistrées, mais ça m'intéressait cette idée d'une chose qui se fabrique à vue aussi, et où que la caméra puisse aussi bien elle-même circuler, glisser, aller chercher dans la scénographie des choses que l'on ne voit pas. C'est aussi de s'amuser, de jouer de ce qui est dévoilé, de ce qui ne l'est pas. La caméra a cette fonction-là aussi, comme un révélateur, d'aller révéler ce qui n'est pas forcément montré. Et c'est peut-être aussi quand même tout l'enjeu de la pièce, ces fameux non-dits aussi familiaux, puisque c'est quand même une remontée du fil d'un secret au fil des générations. Qu'est-ce qui n'a pas été dit aussi dans cette famille? Enfin voilà, ça a à voir, je crois.
Alors oui, tu parles de révélateur, et justement, moi j'ai une impression totalement inverse en voyant les comédiens.
Oui.
Je trouve que la caméra les rend impassibles. Comme si voilà, l'émotion du corps se passait autrement. Et tous ces gros plans qu'on a à de nombreuses reprises, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose d'une incommunicabilité qui est caractéristique de toutes les figures qui entourent Kate, sa grand-mère, sa mère, elle-même enfant, mais que ça avait tendance à intensifier les distances entre elles. Que ça ne les faisait pas jouer ensemble, c'était vraiment volontaire.
Effectivement, de toute façon, c'est vrai que c'est une pièce sur des solitudes. Donc c'est très fort cette chose-là, le fait aussi qu'elle ne soit pas en interaction. Elles sont chacune comme bloquées dans le temps comme ça. Et puis c'est quand même des personnages très mystérieux, la pièce est très rapide, elle va au galop, en 1h30 c'est terminé, donc on pourrait dire que les événements sont amorcés, on pressent l'horreur, on pressent des histoires terribles, mais tout n'est pas dit, donc la caméra tout d'un coup essaie de s'approcher comme elle peut, comme une espèce de témoin, mais je sais pas, sur la distance, je saurais pas dire, en tout cas c'est pas une volonté de ma part de créer une mise à distance, ce serait plutôt comme si la caméra essayait humblement de s'approcher tout d'un coup par le gros plan, d'aller quand même regarder de plus près ces êtres dans la coulisse. C'est des moments aussi, les moments de gros plan sont des moments de coulisse du personnage, on pourrait dire. Voilà, quand il ne sait pas qu'il est filmé.
Les moments de la confession notamment,
oui.
Il y a tout un travail autour de la confession, alors que dans la pièce Nos Serments, c'était central, puisqu'on a un personnage, je ne me souviens plus de son prénom.
De François, le personnage masculin.
Pour ceux qui connaissent le film de Jean Eustache, voilà, qui est constamment en train de pérorer, de se confesser, tout ça.
Oui.
Et là... La confession, j'avais l'impression qu'elle avait un autre... même dans le rapport au texte, elle avait un autre... elle communiquait autre chose, comme si elle ne disait rien, justement. Alors c'est peut-être... Ça vient aussi sûrement du texte de Dorothée Jumstein. Mais voilà, est-ce que ces confessions, vous les avez travaillées comme des non-confessions, en fait?
Oh non, on les a travaillées comme des vraies confessions. D'abord, on pourrait dire cette confession de la grand-mère, puisqu'elle arrive à la fin, c'est une drôle de confession, parce que on n'est plus vraiment dans le réel, on ne sait pas si cette confession a eu lieu. Ce qui se passe, c'est que c'est Mary qui dit « Ma grand-mère, sans doute qu'elle ne m'a pas tout dit. Je ne sais pas tout. Il y a des choses sans doute qu'elle ne m'a pas dites. Par contre, il y en a un à qui elle disait tout, c'était son confesseur. » Donc Mary pressent que le confesseur, lui, il a dû savoir des choses qui peut-être expliquerait, voilà, en tout cas, qui éclairerait. Et pouf, ça fait surgir dans le texte la confession de la grand-mère. Donc ça m'intéresse parce que cette confession, pour l'actrice qui joue la grand-mère, c'est bien réel pour elle au moment où elle l'effectue. Mais dans la pièce, c'est une présomption. On ne sait pas vraiment. On pressent qu'il y aurait eu un inceste, enfin quelque chose. D'ailleurs, le mot n'est jamais dit, effectivement. Mais par exemple, avec l'actrice qui joue donc la grand-mère, on a vraiment travaillé sur, voilà, qu'est-ce que c'est ce moment dans ta vie où tu vas faire une confession. On travaille beaucoup en improvisation avec les acteurs, par exemple. Donc elle a fait une longue confession d'1 heure pour comme au-delà des mots, déplier qu'est-ce que ce serait son texte à elle, de cette confession-là. Et puis peu à peu on en est arrivé au texte, comme si le texte contenait aussi tout un tas de pensées plus vastes, mais qui ne sont pas forcément dites. Donc effectivement, je crois que dans cette pièce, ça recoupe beaucoup sur les personnages. Peu de choses sont dites en réalité. Donc il faut bien, en tout cas, avec les actrices, travailler sur l'imaginaire qu'il y a en dessous. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Il n'y a pas de souci, mais justement, c'est ce qui est problématique enfin, c'est pas problématique au sens péjoratif, bien sûr, mais ce qui est problématique, c'est que voilà, on a l'impression sans cesse que cette histoire, elle est trouée et elle se pense à travers le fait divers que raconte la pièce et difficilement en dehors quand même, il faut bien l'avouer. Donc moi, je me demandais vraiment comment est-ce qu'on travaillait ça dans la dramaturgie, comment est-ce qu'on faisait pour se situer dans une zone qui serait entre le fantasme et l'imaginaire, mais peut-être pas trop dans le fantasme, mais peut-être pas trop dans l'imaginaire, pour rester un endroit juste. Enfin, quel serait l'endroit juste de Mayday, de la mise en scène?
Disons qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté le processus de travail avec les acteurs, qui est une chose, et de l'autre, ce que, comme metteur en scène, comment ensuite j'orchestre tout ça en tant que metteur en scène et ce que je veux raconter. Donc effectivement, je parlais de voyage dans le temps. J'aime bien cette idée-là de que le spectateur puisse être emmené sans ne plus savoir forcément ce qui est la part du rêve ou du réel, mais en attendant, c'est quand même guidé par la voix de Mary, et donc en attendant, ça existe quelque part. Cette confession, elle existe quelque part. Après, par exemple, dans le travail avec les acteurs, on est très concret pour le coup. Enfin, on plane pas comme si on était dans un rêve ou je sais pas quoi, d'autant que la pièce est inspirée d'un fait divers, donc on a eu beaucoup d'éléments par des témoignages. Il y a eu un livre d'une journaliste de cette vraie femme. Le vrai fait divers, c'est l'affaire Mary Bell. Donc on s'est aussi rendu sur les lieux de cette affaire, qui était un cas anglais dans une banlieue de Newcastle, donc on y est allé. Donc pour dire que nous, avec les acteurs, on a fait un travail même presque très documentaire. Pas documentaire de manière enfermante, il faisait pas un biopic, mais en tout cas, il y a eu un long travail avec les actrices pour qu'elles rencontrent leur personnage, on pourrait dire, à travers des situations de vie, et que ce personnage soit en elles, et que ce soit très concret pour elles, pour celles qui jouent la mère, celles qui jouent l'enfant, ou celles qui jouent la grand-mère. Et voilà, elles sont pas elles dans... Elles ont un corps, et comme tout humain, des questionnements, des soucis, des perspectives. Pour elles, c'était nécessaire qu'elles travaillent comme ça, avec cet ancrage là, et qu'elle se sente pas elle dans une chose onirique ou je sais pas quoi. Donc après, c'est ma part à moi de les mettre sur le plateau, et par le son, par la vidéo, par la lumière, de créer ces sensations qui créent peut-être ce décollement un peu du réel aussi, mais c'est pas leur charge à elles, c'est pour dire ça.
D'accord. Et donc, comme pour nos serments, du coup, il y a un vrai travail en deçà du texte, d'improvisation.
Oui.
Par rapport à quoi? Par rapport à leur existence,
Oui, tout à fait. On pourrait dire qu'on a fait le chemin peut-être inverse avec nos serments, puisque nos serments, on savait que j'avais un scénariste à côté de moi, on allait écrire une œuvre à la fin. Donc toutes les improvisations avec les acteurs nous ont permis, on les retranscrivait, et puis à force, on pourrait dire, les rôles ont été créés sur mesure pour eux, puisque c'est à force d'impro que ça nous a donné la matière pour écrire le texte. Là, il y a un texte au démarrage, mais je sens bien que l'enjeu pour moi, c'est pas de commencer par le texte, de dire travaillons telle scène, mais plutôt de déplier tout un paysage contenu dans le texte, des images, des intuitions, des imaginaires, pour que les actrices puissent avoir, comme je le cherchais pour nos serments aussi, ce degré de réalité, en fait. Ce qu'on pourrait appeler le travail sur la vérité ou sur le présent, oui, qui fait que souvent les gens vont dire « Ah tiens, c'est cinématographique comme jeu », mais c'est effectivement que cette femme, ces femmes aient leur degré de réalité. Ça, c'est important pour moi que l'acteur rencontre ça. Et qu'au fond, même l'acteur, il se dit pas « je joue un personnage », mais il a rencontré dans sa vie de plus près la chose, cet être-là, ses manières d'être. Donc, en quelque sorte, c'était même presque comme si on refaisait le chemin d'écriture de l'auteur, puisque l'auteur, elle aussi, s'est inspirée du fait divers, s'est rendue en Angleterre, a lu tout un tas de livres autour, et puis elle en a tiré une pièce, quoi. Tout d'un coup, une écriture très épurée, très épique aussi, je trouve. C'est comme si on avait refait un peu ce chemin-là.
Et oui, justement... Cette prise avec le réel, moi je trouve quand même que c'est quand même une prise avec l'énigme, puisque la chose avec laquelle les actrices, les personnages jouent, c'est quand même le silence.
Oui.
Et voilà, ça c'est quand même assez. De plus en plus, c'est vrai qu'on travaille sur la scène le silence. Hein. Régis nous a appris à ne pas avoir peur du silence. Mais voilà, ces silences qui sont pesants, qui peuvent être lourds de conséquences, qui testent des faits graves dans l'histoire, ou des silences qui sont des absences d'amour, des gouffres, peut-être même les vrais responsables du crime, si on a une lecture un peu Zola de l'œuvre.
Ouais.
Et donc, moi, je voulais me poser vraiment cette question par rapport au silence. Est-ce que le silence, c'est la vraie machine de guerre, hein, si on prend Pi qui traduit Shakespeare dans Lear, pour mettre à l'épreuve le monde, justement?
Effectivement, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Comme quand tu disais que la pièce était trouée. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, le silence me fait penser au cri, puisque le vrai livre de témoignage de Mary Bell, auprès de cet auteur journaliste qui s'appelle Gita Sereni, le livre en anglais s'appelle Cries Unheard, donc tous les cris inentendus. Donc c'est vrai que Et la pièce travaille sur les silences, effectivement. Ce serait ce qui traverse les trois générations. Mais j'aime aussi cette idée de ce qui a été montré, crié, hurlé et qui n'a pas été vu aussi. Donc oui, tout à fait. Je trouve que c'est très présent dans la pièce et donc nécessairement après ça se... Bah, le silence, c'est pas tant que théâtralement je cherche à ce qu'il y ait du silence. Enfin, ça, quand j'entends ça, même ça m'étonne. Je me dis, ah bon, il y a des silences. Enfin, je m'en rends pas forcément compte. Mais ce travail comme ça aussi sur le temps réel des situations, je pense que c'est ça qui crée cette... J'aime bien ces moments où, sur la scène, il y a comme un temps commun avec le temps du spectateur. C'est l'idée que ce qui se passe sur le plateau est pris aussi dans le temps de vie du spectateur. C'est pas, il n'y a pas de quatrième mur avec un temps pour de faux, une fiction, des personnages comme ça, et puis nous, on viendrait... J'aime bien cette idée de temps partagé, quand on entend en commun les secondes, le silence dans un théâtre. Ça, j'adore ces moments-là. Et donc, je pense que ça tient à, justement, c'est pour ça qu'on a besoin de faire beaucoup d'improvisation avec les acteurs, pour que, comme trouver le temps juste, le temps qui leur est propre à elles, c'est-à-dire plus elles ont rencontré de près les personnages, plus les scènes peuvent se déplier telles qu'elles le sentent ce soir-là. Enfin, je sais pas comment en parler, hein, c'est pas évident, mais c'est sans doute ça qui crée parfois des effets de temporalité. Mais nous, on cherche pas à créer une certaine temporalité ou à amener des silences, mais je pense que ça émerge nécessairement de ce type de travail, sans doute.
On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. Look at me now. Thank you.
was. She had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. Transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now, I'm flying. Look at me now.
De silence, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que dans ces moments oui presque épiques, on voit les personnages se déplacer sur scène, se déplacer chacun à sa manière. On a souvent quand même une musique qui vient soutenir l'ensemble, alors qui pourrait faire penser à la manière dont une musique peut être introduite dans un film, justement, à la bande originale d'un film. Mais malgré tout, enfin, je voulais quand même avoir ton sentiment là-dessus, parce que j'arrive pas très bien à saisir quelle est l'utilisation dans ton travail de la musique.
La musique en elle-même ou le travail du son ?
Enfin, le travail du son de la musique aussi, le choix musical.
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'un côté un créateur son et un compositeur. Un compositeur que je connaissais, qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Krishna Levy, et donc qui a composé comme ça quelques morceaux qui sont les morceaux les plus, je sais pas comment dire, il y a des coups d'archer, enfin des choses plus, je sais pas si c'est plus dramatique, il faudrait dire, ou les mots épiques, je peux le retrouver là-dedans, quelque chose qui donne ce fameux souffle comme d'une fresque comme ça. J'aimais cette idée qu'il y ait des musiques comme ça, presque comme des variations, et puis il fait des musiques très hitchcockiennes aussi, je trouve, alors j'aime bien ça, amène un certain suspense aussi. Ça, c'était une nature de son. Et sinon, il y a eu donc le créateur son, Quentin Dumais, qui a fait un travail formidable de choses plus invisibles, plus souterraines ou parfois plus affirmées, mais qui font qu'effectivement, tout d'un coup, on entre comme des séquences de mémoire, comme des limbes parfois. Et donc, c'était tout ce travail de très fin, de transition. C'est vraiment, j'ai vraiment senti que ce grand morceau, ce spectacle était comme de la musique, un peu comme une symphonie, comme ça, où il y aurait des choses en mineur, des choses en majeur, et donc qui amène comme ça, puisqu'il est question de vent parfois, donc un son de vent ou des notes tenues, qui font qu'on n'est pas tout à fait dans l'ultra-réalisme de là maintenant, mais on a comme des nappes sonores qui teintent ou qui peuvent amener une inquiétante étrangeté ou qui amènent un suspense ou qui créent un effet de gros plan sur quelque chose. Ça avait cette fonction-là, comme ça, je dirais. Mais une fonction vraiment physiologique. Parfois, il a pu travailler sur des choses chuchotées qu'on soit même pas sûr de l'avoir entendu. Comme si on... Toujours cette idée comme ça d'un voyage pour le spectateur. Donc la part du son a été très importante, en fait. la recherche, oui, autour du son.
Et donc après le son, j'aimerais qu'on parle un peu de la scénographie, qui est quand même assez particulière, très 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 belle, vraiment extrêmement bien travaillée, qui vraiment montre un lieu complètement déshérité. Et c'est quand même assez rare pour être souligné les pièces de théâtre où vraiment c'est le lieu de l'action est un lieu déshérité, mais qui s'affirme en tant que lieu déshérité, en tant que lieu en ruine. Je pense à Key West de Coltès, par exemple, qui est un magnifique exemple et qui m'a beaucoup fait penser à Mayday sur un tas d'aspects aussi. Et donc là, pour le coup, ça symbolise les grands espaces pavillonnaires de Scotswood, des maisons abandonnées où se sont produits les fameux crimes de Maribel. Et moi, je me demandais justement, cette scénographie qui incarne donc à la fois un espace en friche et en même temps détruit, même on se demande si on peut même le reconstruire un jour, parce qu'il y a toute cette idée d'une quelque chose de fixé, de mort, mais qui finalement ne pourrait jamais revenir à la vie. On a l'impression que ce lieu, malgré tout, nous dépasse quand on est spectateur. Est-ce que c'est le même sentiment aussi quand on est sur scène, ou quand vous avez mis en scène le spectacle, est-ce que vous avez laissé ce lieu vous dépasser, dans le sens où presque s'abandonner à ce lieu, le construire, le penser et s'abandonner dedans?
Oui, tout à fait. Oui, c'est très beau dit comme ça, je trouve, parce que effectivement j'ai senti que c'était une grosse scénographie, comme on dit. C'était important comme espace. J'avais besoin d'un étage, de trous, d'une pente qui se casse la gueule, des poteaux, d'un espace aussi qui soit pas, qui fasse sentir de l'instabilité, qui soit dangereux quand même. Et y compris même, il est très sécurisé pour les acteurs, mais que les premières fois, qu'on ait ce sentiment d'instabilité, effectivement, on ne sait plus, est-ce qu'il est en reconstruction, en déconstruction, est-ce qu'il a été une première fois détruit, puis il se serait réécroulé derrière. Tout d'un coup, c'est un lieu qui a une histoire, ça m'intéresse. Et effectivement, on l'a donc fait construire, et puis on a eu la chance de répéter pendant un mois dedans. C'était très important pour moi de ne pas se retrouver à la dernière minute avec une scéno comme ça, et puis juste mes idées dans ma tête, et puis il fallait aller à la rencontre de ce lieu. Et effectivement, le premier jour, cette chose comme massive, mais en même temps avec de l'air dedans, le premier exercice, même avec toutes les actrices, les acteurs, c'était de le rencontrer. On a fait une grande improvisation, mais qui a duré 3 heures, en fait, où les filles étaient à l'étage, juste aller à la rencontre de ce lieu. On envoyait des fois des vidéos, on envoyait un son, elles marchaient, elles s'allongeaient, mais comme rencontrer ce lieu dans toutes ses possibilités aussi. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a permis de monter le spectacle au fur et à mesure, c'est-à-dire de sentir toute cette recherche, comment elle pouvait se retrouver au résultat, nous donner plein d'idées, c'est-à-dire regarder quelle était l'approche des corps avec ce lieu. Ça m'a beaucoup intéressé, et c'était nécessaire pour que justement pour qu'on aille à sa conquête, en fait, que ce soit pas juste un lieu qui nous dépasse comme ça, qui est plus grand que nous, mais en trouver les circulations et les possibilités, les ouvertures. Donc il était presque, je ne veux pas dire comme un personnage, mais disons que les premiers temps, c'était un événement. On pouvait pas faire comme s'il n'y avait pas ça, quoi, sur le plateau. Ouais.
Et donc justement, il y a un rôle de la caméra qui se dessine et qui n'était pas dans nos serments. C'est d'essayer de montrer cet espace finalement, parce que la caméra nous donne accès à des espaces, notamment je pense à l'appartement de Marie, je crois.
Oui.
L'appartement de sa mère. Qu'on ne voit pas quand on est le public.
Oui.
Pourquoi ce choix aussi? Parce que c'est assez déroutant, c'est même peut-être un peu frustrant pour un spectateur. On n'attend rien, mais en réalité, ce serait très drôle si ça tournait puis qu'on voyait.
Ah oui, on a essayé plein de choses. On avait, à un moment donné, j'aimais bien l'idée que cette petite boîte comme ça, appartement, s'ouvre à la fin et donc qu'on dévoile ce qu'il y avait à l'intérieur. Au final, bref, dans la dramaturgie, ça s'est pas présenté, mais finalement, on a inversé, sauf que les gens n'ont peut-être pas le temps de se rendre compte, mais en fait, c'est ouvert au départ. au tout début, et en fait, elle se referme. Oui, bah ça, j'aime beaucoup, parce que, bah oui, ça crée une frustration, tout n'est pas montré, et même cette grosse scénographie de ruine, elle a des... On voit même, d'ailleurs, que selon là où on est placé dans la salle comme spectateur, je vais pas dire qu'on voit pas le même spectacle, mais quand même, on a pas du tout les mêmes perspectives, selon qu'on est tout près, en hauteur, à jardin ou à cour. Donc, voilà, c'était évidemment un terrain de jeu, aussi pour les collaborateurs lumière et vidéo, parce que tout d'un coup ça permettait même que le vidéaste aussi s'amuse à tourner autour dedans et me dévoile aussi à moi des points de vue. C'est vraiment la question du point de vue, et la lumière aussi tout d'un coup s'amuse à tout d'un coup comment cette structure peut être éclairée seulement par fragments, ou au contraire devenir inquiétante, être éclairée de manière plus globale, plus réaliste ou moins réaliste. Donc ça me plaisait aussi, de créer des perspectives et des points de vue à l'intérieur d'un espace qui en vrai ne bouge pas, est toujours le même. Ça c'était plutôt passionnant, et c'était presque comme si c'était une chose infinie, comme si on pouvait à l'infini s'amuser à dessiner quoi, des trous, des perspectives, et donc voir tout d'un coup, c'est comme une boule à multifacettes comme ça, tout d'un coup, qui, donc on pourrait faire un plateau tournant, mais là c'est comment, sans faire ça, rien que par la lumière ou la vidéo ou les circulations d'acteurs, donner ces sensations d'une chose qui se renouvelle en fait, que le lieu se renouvelle.
Même s'il est totalement mort, au fond.
Et pourtant, et en même temps, oui, tout à fait, il est comme une structure qui est là, comme une épave de bateau, comme s'il était là de tout temps, et effectivement, il n'y a plus qu'à le détruire totalement, quoi, comme ces fameuses maisons, quoi. On ne peut plus rien en faire, on ne peut plus construire. Est-ce qu'on peut encore construire sur les ruines, oui. Oui, oui, tout à fait.
Parce que la scénographie matérialise vraiment ça, elle va même jusqu'à représenter les mauvaises herbes, c'est quand même assez...
Oui, j'avais envie ça de... On a ajouté des éléments comme ça aussi, ou des journaux, ou des choses au sol, qu'aussi ce soit comme si, je sais pas quoi, cette épave avait poussé dans le théâtre. C'est-à-dire qu'on, j'avais besoin aussi qu'on s'adapte à chaque lieu. C'est pour ça que là, c'est intéressant en tournée aussi, de voir comment cette fameuse épave serait aussi l'épave même du théâtre. C'est-à-dire le plateau devient lui-même un immense terrain vague. C'était important qu'il n'y ait pas que la structure, mais au-delà, comme ça, des restes de nature, enfin, un peu comme chez Tarkovski, quoi, de lieux complètement à l'abandon. Le théâtre lui-même serait à l'abandon, quoi. Enfin, en gros, une chose comme ça.
Alors là, je m'apprête à lire une longue citation de Strindberg dans la préface à Mademoiselle Julie, justement pour réfléchir par rapport au personnage de Mayday, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble, hein. Enfin, en même temps, c'est un des grands du théâtre contemporain, c'est un peu normal, heureusement, j'ai envie de dire. Donc, justement, l'idée, pour revenir, parce qu'on n'en a pas, on n'a pas encore vraiment insisté là-dessus, mais moi, vraiment, l'idée que j'ai eu l'impression que les personnages étaient impassibles, enfin, finalement qu'ils vivaient leur histoire sans ressentir d'émotions. Alors sûrement parce qu'ils sont étouffés par tout un tas de raisons sociales et politiques. Hein. Enfin, il me semble que la mère de Marie est prostituée.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Et donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui ne communique pas. Et surtout pour le spectateur qui peut paraître assez brutal, justement. Alors je vais lire ce long paragraphe, et puis on commente après. Alors, mais des temps viendront peut-être où nous serons si développés, si éclairés, que nous pourrons contempler avec indifférence le spectacle brutal, cynique et impitoyable que nous offre l'existence humaine, puisque nous aurons laissé derrière nous ces mécanismes intellectuels inférieurs et peu fiables qu'on appelle sentiments, lesquels deviendront superflus et néfastes au fur et à mesure que se développera notre faculté de jugement. Et si l'héroïne éveille notre pitié, c'est uniquement à cause de notre faiblesse qui nous fait craindre d'être frappé par le même sort. Mais un spectateur particulièrement sensible ne se contentera peut-être pas de cette pitié, et l'homme qui a foi en l'avenir exigera peut-être quelques propositions concrètes pour l'éradication du mal, autrement dit un commencement de programme. Alors comme le dit Kate à plusieurs reprises, et c'est la vraie interview aussi de Gita Sereni, elle ne fait pas ça pour comment dire, elle ne fait pas cet entretien pour elle, elle le fait pour prévenir, qu'on reconnaisse les signes, et ça je trouve ça très important. Et du coup, quel serait ce commencement de programme pour vous dans votre dramaturgie, où est-ce qu'il se situerait? Est-ce qu'il est dans le passage du sentiment au jugement, ou au contraire, est-ce que vous laissez le spectateur totalement libre?
Bah oui, ce serait vraiment le laisser libre de tout jugement. C'est vraiment une démarche qui tendrait vraiment même à sortir du jugement. Oui, et effectivement, elle dit, si je fais cette interview, c'est pas pour moi ou me faire pardonner, mais c'est peut-être qu'on aurait pu m'arrêter avant que je les tue, peut-être que ça pourrait aider à reconnaître les signes. Elle dit ça humblement, et on pourrait, nous, au théâtre, essayer se dire que humblement, peut-être, ça peut nous au moins nous faire réfléchir ou nous aider à être plus attentifs aux enfants qu'on voit près de nous, que sais-je, enfin voilà, ça peut avoir cette fonction-là. Mais comment dire, non, il y a plein de choses dans ce qui a été dit, c'est cette histoire-là d'impassibilité qui, moi, me parle pas tellement, au sens où je sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'elles auraient pas d'émotion. Parce que pour moi, c'est toutes comme des espèces de bombes à retardement. La petite, elle se jette contre un mur. Il n'y a pas plus grande émotion que de dire peut-être que sans ce cahier noir que ma mère affectionne tant, peut-être qu'elle sera forcée de m'aimer tout en se jetant contre le mur. Pour moi, il y a une grande émotion là-dedans. Elle court partout, elle s'épuise jusqu'à en mourir, sans doute pour faire sortir tout ça d'elle. Il y a des émotions. Alors, quel type d'émotion on attendrait? Je peux questionner ça aussi de la part du spectateur. Est-ce que c'est que on voudrait avoir une espèce d'empathie ou je sais pas quoi? Effectivement, plus on avance dans la pièce, plus il y a quelque chose qui fait peur. C'est quand même la question du mal aussi. C'est des personnages terribles. C'est aussi une mère qui dit je ne voulais pas de cette petite, débarrassez-moi de ça, j'en voulais pas, et qui n'a pas peur de le dire devant nous. Et donc ça fait un petit peu peur, enfin c'est même un peu repoussant. Donc ça m'intéresse, ces comportements qui ils sont pas sympas, ça c'est sûr, et ils sont pas là pour être aimés, ils s'en foutent. Et donc c'est comme si toutes ces espèces de monologues là étaient comme si on était dans l'antre de ces êtres-là. Et donc, du coup, on n'a pas le choix. On est face à ça. On en pense ce qu'on en veut. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On peut tantôt avoir de l'empathie et se dire, oh, mais quand même, c'est vrai que cette Betty, la mère, elle l'a eu jeune, c'est vrai. Ah bah oui, mais en même temps, c'est terrible. J'aime bien qu'on puisse être partagé aussi sur ne pas savoir quoi en penser et au final sortir de ça avec plus de questions que quand on y était entré. Mais j'aime bien cette idée que peut-être que leurs comportements sont là pour nous questionner. En tout cas, j'en sais rien des émotions que j'aimerais que ça crée. Je sais pas par où ça se passe, par où ça. Je saurais pas dire. Mais par contre, je pourrais pas dire qu'elles sont coupées de leurs émotions. Il est beaucoup question du feu. C'est cette mère qui n'arrête pas de parler, d'avoir l'impression qu'elle est elle-même comme elle est le feu, quoi. Elle est agie comme ça. Donc ça aussi, c'est que des choses très chaudes. Si on parle d'émotions et de... Je n'ai pas l'impression qu'elles sont vers le froid, mais plutôt vers le chaud. Prêtes à exploser tout le temps. C'est des personnages très extrêmes, des situations extrêmes, terribles.
Justement, on sent effectivement quelque chose d'assez cauchemardesque,
ouais.
Mais qui se situe précisément dans les moments d'improvisation. Mmh. Et c'est pour ça que moi, il me semblait vraiment que c'était votre part d'interprétation du texte, et que dans le texte en lui-même, dans l'interprétation du texte, c'était pas tant un travail sur l'émotion qui était donnée que sur peut-être comment se déplacer, comment déplacer la voix. Enfin, je pense que vous, c'est une vision un peu biaisée que j'ai.
Pour moi, l'enjeu, c'était vraiment, comme en plus c'est écrit comme des monologues, de les mettre en situation. C'est-à-dire comme si on prenait toutes ces femmes dans un temps de leur vie, une situation donnée, où elles pensent ça et elles disent ça. Et peut-être que le lendemain, elles penseront le contraire, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on les prend à un moment donné très précis de leur vie, comme ça, même si nous, on ne sait pas quel moment c'est forcément. Mais en tout cas, que ce soit comme des personnages en mouvement. On les prend dans des fragments de vie, comme ça, qui apparaissent devant nous, sans nous faire d'introduction à ça. Pouf, on est saisi, témoin de ce moment-là. Et dans ce moment-là, le personnage nous dit où il en est. Et il nous le dit tel quel, comme ça, sans masque. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais en tout cas, c'est un travail vraiment sur des situations. Et donc, en ce sens, c'est pour ça que je parlais beaucoup du travail d'acteur. C'est un travail réaliste pour nous, au sens de réfléchir à l'humain, comment on est à tel moment avec sa fille, si on vient de s'engueuler, ce rapport de rivalité qu'elle a avec elle, ou des situations de la vie. On a vraiment travaillé sur des situations de la vie.
Parce que moi, je parle vraiment de mon ressenti de, ouais. de spectateur.
Ouais, ouais.
Et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans l'œil du cyclone, pour le coup. Est-ce que c'était vraiment un effet recherché ou pas du tout? Ça dépend que de moi, pour le coup. Ou est-ce qu'il y avait cette volonté de ne pas trop violenter, finalement, quelque chose qui pourrait l'être
Je pense que sans doute c'était pas, je cherchais pas à ce que ce soit comme un coup de poing à venir. Justement, la pièce est très elliptique, donc c'est autre chose. S'il s'agissait d'adapter le vrai livre de Mary Bell, où là on a tous les détails, l'horreur on l'a. Ça, je sais pas ce que ça ferait au théâtre, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est cette pièce-là qui justement ne dit pas tout et qui laisse sentir. Donc ça veut dire que il y a quelque chose de frontal quand même, parce que ça reste des personnages qui parlent au spectateur. Donc j'aime bien ce côté très direct. Elle parle là maintenant à la salle comme ça, donc voilà. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui voudrait de nous comme ça des émotions particulières ou qui viendrait nous dire et nous souligner des choses. Je trouve que les situations sont déjà tellement fortes en elles-mêmes que déjà essayons-nous de déplier au plus près comment ça pourrait se vivre, de mettre ça sur le plateau, d'agencer ça ensemble dans un grand voyage, comme ça, avec fluidité, pour qu'on soit à la rencontre de ces femmes, comme ça, mais qui viennent à nous, comme ça. En ce sens, pour moi, là, il y a un côté quand même très, très frontal. Mais c'est vrai que je ne cherche pas particulièrement la violence de ça. Ça suffit, la puissance d'évocation suffit. Je trouve que c'est une pièce... C'est pour ça qu'on a déplié, d'ailleurs, beaucoup d'images et toute cette poétique-là, parce que je trouve que la pièce contient beaucoup d'images très fortes. Elle a une grande force d'évocation. Donc je fais confiance aussi à la force d'un acteur sur un plateau qui, à un moment donné, nous parle de ce qu'elle vit quand elle traverse le pont, quand elle va dans les grands bâtiments avec sa maman et qu'il y a un monsieur. Bon, à nous d'entendre aussi ce qui est dit.
Donc c'est en cela que c'est l'épopée théâtrale,
oui,
le passage, oui, de la voix au geste, quelque chose comme ça.
Oui, il y a quelque chose d'une épopée, il y a quelque chose, et c'est vrai, d'un mystère aussi, sur une circulation bizarre de gestes, comme si Mary, au début de la pièce, se retrouve avec un geste, un cauchemar qu'elle fait tout le temps, ce geste d'ouvrir une porte, elle n'arrive pas à ouvrir cette porte, et puis on se rend compte qu'en fait ce geste est celui de la grand-mère, d'une porte qu'elle n'a pas ouverte. Donc j'aime bien cette idée-là, comme s'il y avait une connexion bizarre des gestes et des mots aussi, dans le temps, parce qu'il y a aussi des phrases qui se retrouvent de femme en femme. Ça, j'aime bien cette chose-là, mystérieuse, qui traverse le temps et les corps. C'est presque un peu mystique, enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de ça.
Justement, ma dernière question, elle porte précisément sur le mystique, parce que ça, c'est une dimension que je n'avais pas tellement vue dans nos serments, et qui naît véritablement dans Mayday, et qui, sans doute, je l'espère, se retrouvera dans des spectacles futurs. Alors, je me demandais du coup si la mise en scène, pour toi, ça relevait plus de l'alchimie, au sens où Rimbaud l'entend, ou davantage de la chimie, au sens où Maeterlinck l'entend cette fois, lorsqu'il écrit qu'un chimiste laisse tomber quelques gouttes mystérieuses dans un vase qui ne semble contenir que de l'eau claire, et qu'aussitôt un monde de cristaux s'élève jusqu'au bord et nous révèle ce qu'il y avait en suspens dans ce vase où nos yeux incomplets n'avaient rien aperçu.
Ah oui, c'est magnifique. Non, puis Maeterlinck, c'est... Oui, oui, complètement. Maeterlinck, c'est vraiment... c'est l'invisible pour moi. C'est l'écoute de l'invisible, quoi, et de l'espace. Et donc, tout d'un coup, arriver à créer les conditions pour nous, sur le plateau, pour mettre le spectateur dans ce type d'écoute. J'y arrive ou j'y arrive pas, certains mais j'allais dire le sentent ou pas, c'est-à-dire c'est de travailler sur les perceptions en quelque sorte, faire appel aussi aux perceptions du spectateur et pas à son intelligence ou sa capacité d'analyse ou je sais pas quoi. On n'a pas travaillé comme ça, en tout cas c'est pas à cet endroit-là que l'expérience du plateau m'intéresse. Justement, si on fait tout ce travail sur le présent, c'est quand même souvent je parle aux acteurs de cette écoute de l'espace. Parfois on est seul comme ça avec nos problèmes et puis on n'entend pas le silence autour de nous, sentir même, on parlait de cette grosse structure comme ça, voilà, d'une actrice à côté de moi, enfin cette écoute là qui fait qu'il n'y a jamais rien, que c'est toujours plein de quelque chose, et donc effectivement il y a quelque chose de mystique là-dedans, et c'est très beau la phrase de Maeterlinck, que c'est vraiment effectivement une affaire de chimie. Donc mon rêve, c'est en tout cas quand des spectateurs quand on arrive à ce que il y ait cette connexion aussi avec la salle et que, au fond, que le spectateur sorte avec, pour lui-même, une expérience physique aussi. C'est-à-dire qu'il aura peut-être entendu plus loin que ce qui a été dit ou vu, plus loin que ce qui a été montré.
Alors pour terminer, quelques dates. Alors je ne les ai pas en tête, je ne les ai pas notées.
Alors,
le spectacle tourne encore et...
Oui, on va aller dans plusieurs villes. La prochaine, alors je vais les donner. La prochaine, c'est Besançon, du 11 avril au 14 avril. Ensuite, on est à Orléans, du 26 avril au 28 avril. Et donc on sera à Reims aussi les 16, 17 et 18 mai et puis on termine à Dijon les 26, 27 et 28 mai au théâtre, à Théâtre en Mer.
Oui, bien, je te remercie de nous avoir accordé ce temps d'entretien.
Merci beaucoup.
Et donc bonne continuation pour le spectacle et bonne fin de représentation à Lyon.
Eh ben, merci beaucoup.